Merci beaucoup, Philippe. Merci, Mathieu, Olivier et tout le reste de l'équipe pour cette invitation. L'occasion d'être avec vous. Et vous savez que le Montélimar, ce n'est pas ma première fois. Patrick, juste rappelle-moi encore une fois, c'était vers quelle année ? Ou Catherine ? 2006. Voilà, 2006, on a participé à une implantation d'église ici. Et on a investi à peu près 3 ans de nos vies, beaucoup de prières, la sueur, un peu de sang. Et vraiment, et c'était malheureusement, cela a fini en échec. C'était une de mes plus grands échecs de ma vie en tant que pasteur. Mais en fait, c'était un petit peu grâce à cet échec, entre autres, que j'ai vraiment crié Dieu qui m'amène quelque part où je peux vraiment améliorer ma façon de diriger l'Église. Et c'était par la suite que j'ai découvert EQUIP, cette formation. Et par la grâce de Dieu, on l'a ramené en France. Et puis voilà, toutes ces années plus tard, on est toujours en train de former des leaders. Donc moi, j'ai le privilège d'être un formateur, non pas parce que je suis un expert, parce que honnêtement, dans le royaume de Dieu, à part Jésus, y a-t-il un vrai expert en leadership? Non, il y a juste ceux et celles qui sont des étudiants, n'est-ce pas? On apprend, et malgré le niveau de ce qu'on a déjà appris, il y a toujours un bon chemin à faire. Amen. Merci pour l'amen. Dans le Grand Nord, on dit amen. Et voilà, donc Montélimar, quand même, j'ai laissé une partie de mon cœur dans cette ville. Vraiment, donc j'aimerais vraiment encore une fois vous remercier parce qu'en dehors d'EQUIP, c'est la première fois que je prêche à Montélimar depuis cet échec. Donc c'est vraiment pour moi une sorte de voyage de la rédemption de Dieu. Donc, et puis même quand je vous vois, ben, quelque part, il y a toutes ces années, j'ai rêvé de vous. Et de vous voir là, franchement, vous ne pouvez pas imaginer l'impact sur mon cœur. Donc, merci encore. Merci, merci. Alléluia. Juste rappelle-moi, désolé, j'oublie, mais à quelle heure je dois terminer? 14h? Pas de problème. Non, midi 10-15. OK. Ça va être du sport, mais bon, on fera de notre mieux. Philippe est en train de dire, ouais, il faut vraiment attendre un miracle de Dieu. OK. OK, on va commencer, on va lire 3 textes dans le Nouveau Testament et on va plonger tout de suite dans le message que je crois vraiment vient du cœur de Dieu. J'aimerais vous parler en fait de la vallée du délai. La vallée du délai. Et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas mon français. On ne m'appelle pas le petit Robert pour rien. Donc, une chose est vraie, même si vous ne croyez pas trop à la restauration des dons spirituels, Dieu, il a un don, il va distribuer sur vous tous, c'est le don d'interprétation des langues. Comme ça, vous n'allez rater absolument rien de ce que le Père Céleste a préparé pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer en 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous connaissez ces textes. Donc, ce ne serait pas des choses dans le fond perdu d'Ézéchiel. Ce sont des textes que nous citons souvent quand on passe dans des moments d'épreuve. 1 Corinthiens 10 et le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est éprouvée. » Qui n'était une tentation humaine. Et Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut juste répéter cette phrase? Dieu est fidèle. J'aimerais juste souligner le fait que là, il est en train de parler des tentations. Et dans la langue grecque, il n'y a aucune différence entre le mot traduit tentation et le mot traduit épreuve. C'est le même mot en grec. Donc, quand les traducteurs viennent sur les textes d'origine, ils regardent ce mot, et désolé, hein, je ne l'ai pas noté, ils regardent un petit peu le contexte du texte pour décider s'il va le traduire en mot épreuve ou tentation. Donc si dans le texte, on évoque un peu la notion de quelque chose qui travaille de l'intérieur, tu vois, pour nous éloigner de Dieu, on va traduire ça en tentation. Si c'est quelque chose, une pression extérieure, on va traduire le mot en épreuve. Okay? Mais ça, c'est vraiment à la discrétion du traducteur. Bon. Donc, c'est pour cela que parce que ça ira mieux avec mon message, si je peux traduire le texte de ma façon. Mais là dans ce cas, j'ai la liberté. Okay? Donc, on recommence. Aucune épreuve ne vous a éprouvé qui n'ait été une tentation humaine ou une épreuve humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec chaque épreuve, il vous en fera trouver l'issue, afin que vous la puissiez supporter. Pas échapper. Donc notre issue n'est pas un échappatoire. Amen. Goliath, que Dieu a placé devant David, il y avait une issue. Et c'était direction Goliath. David devait passer par Goliath. C'était ça l'issue. L'issue n'était pas derrière avec en rentrant à la maison. Oh, Dieu, il est fidèle. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Dieu, il est fidèle? OK. Vous voyez, vous le dites un peu moins fort maintenant. OK, on va tourner dans la lettre de Jacques. Jacques est le chapitre 1. Encore une fois, vous connaissez ce texte, certainement. On va commencer dans le verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous serez exposés à diverses épreuves. » Encore une fois, j'aimerais juste simplement vous encourager à souligner le fait qu'il fait une association entre le mot « joie » et le mot « épreuve ». Déjà, on a fait une association entre la fidélité de Dieu et les épreuves. Souvent, quand on est dans une épreuve, on se demande, mais Dieu est-il vraiment fidèle? Et si on ne pose pas cette question, on pose la question, mais où est la joie? Si on est dans une épreuve, quand même, soyez réaliste. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance. Écoutez ça, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance ait une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits ou mûrs et accomplis de sorte que rien ne vous manque. Wow. OK, le dernier texte, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire quand Jésus-Christ sera révélé, lequel, quoiconque vous ne l'ayez point vu, vous aimez, et qui, quoiconque maintenant que vous ne le voyez point, vous croyez. Vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Wow, amen. On va faire quelque chose, on va juste prier et mettre ça entre les mains du Seigneur, mais j'ai besoin de votre participation. Amen. Prenez votre main droite, placez-la au-dessus de vos yeux. Père très saint, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que tu oins nos yeux, alléluia, pour qu'en voyant nous puissions comprendre. Maintenant sur les oreilles. Seigneur, tu oins nos oreilles et tu nous donnes à chacun l'oreille d'un disciple pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église. Maintenant, le cœur. Seigneur, tu oins nos cœurs pour que nos cœurs soient comme de l'argile souple et malléable entre les mains du potier, afin que tu puisses façonner et même forger au fond de nous l'image de notre cher Seigneur Jésus. Maintenant, levons les mains. Père, nous libérons maintenant l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance du Christ. Seigneur, nous faisons appel à l'onction du Saint-Esprit qui demeure au fond de chacun de nous, que cette onction se lève maintenant afin que les mots de cet homme puissent devenir des oracles de Dieu et que nous soyons transformés et que ton royaume avance à travers tout ce que nous allons vivre maintenant au pied de Jésus. Et c'est dans ce nom glorieux que nous le prions et tout le monde dit « Amen ». Je crois, pour moi, il y a vraiment peu de déclarations dans la Bible plus extraordinaires que la phrase « Dieu est fidèle ». C'est vrai, la Bible est remplie de phrases de ce genre. « Dieu, il est saint ». Amen. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres phrases semblables? « Dieu, il est bon ». Ah, magnifique. Il est amour. Oui, quoi d'autre? Il est bon, il est... Quoi d'autre? Santé? Bonté. Très bien. Quoi d'autre? Puissant, miséricordieux. Il y a vraiment un paquet, mes amis. Vraiment un paquet. Mais cette phrase m'a vraiment saisi. J'ai dit, mais Dieu, il est fidèle. Mais comment Dieu est-il fidèle? Okay, l'une des règles dans ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des Écritures, c'est que dans chaque première mention d'une vérité, il y a un grain de vérité. Donc, j'ai cherché dans la Bible la première mention de la fidélité de Dieu. Et j'aimerais vous le lire. C'est en Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, c'est la déclaration par rapport à l'alliance mosaïque. Et dans le chapitre 7, verset 9, il est écrit... « Connais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fort, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance. » C'est absolument extraordinaire cette phrase. Dieu, il est fidèle, merci pour le verre d'eau, et il garde l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire, il garde l'alliance? Ben, Dieu, il est très attaché à sa parole. N'est-ce pas? Quand il a créé le monde, il a fait comment? Il avait une baguette magique et voilà, abracadabra. Est-ce qu'il a fait comme ça? Non, il a fait comment quand il a créé le monde? Il a parlé, il a fait une déclaration. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole créatrice. Chaque parole à la puissance de créer quelque chose qui n'existait pas que dans le cœur du Père. Alléluia. Et c'est ça vraiment le sens qu'on a quand la Bible parle que Dieu est un Dieu qui garde alliance. C'est-à-dire que lorsqu'il proclame, il donne une promesse à son peuple. Mais imaginons juste un instant que, en parlant, vous pouvez voir les mots qui sortent de ma bouche. Et que les mots commence à flotter un petit peu dans l'air. Il cherche sa destination. Mais avant que les paroles s'éloignent trop de moi, imagine que je pouvais juste étendre ma main et les envelopper de ma présence. C'est ça ce que Dieu a fait. Quand Dieu proclame quelque chose, c'est comme si le mot sort de sa bouche et avant que le mot s'éloigne de lui, il va envelopper le mot de sa présence. Et là, il va mettre sa présence dans le mot, dans la parole. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il n'y a vraiment aucune distinction entre Dieu lui-même et la parole qui est sortie de sa bouche. Jean, chapitre 1, nous dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Dieu et ses paroles sont inséparables. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a enveloppé la parole de sa nature, de sa présence. Donc, si jamais un élément de sa parole faillit, ben Dieu n'existe plus. Chaque parole de Dieu. Ésaïe nous dit qu'aucune parole n'est jamais sortie de la bouche de Dieu sans retourner, sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été envoyée. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Il n'y a pas une seule qui peut revenir à l'expéditeur, si on peut le dire comme ça, sans avoir accompli la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé. Vous vous rendez compte, on parle beaucoup du retour du Seigneur Jésus. Moi, combien vous croyez que Jésus revient bientôt? Ok, quelques-uns. On a du travail. Moi, je crois qu'il revient bientôt. On est plus proche aujourd'hui que nous étions hier. Wouh! Amen! Son retour est plus proche. Alléluia! Et demain, ce serait plus proche encore. Alléluia! Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais convaincu que Jésus allait revenir avant mes quarantaines. Oups! Maintenant, vous savez, dans les années 80, il y avait un gars aux États-Unis. Bah, toutes les choses folles arrivent aux États-Unis, semblerait-il. Surtout dans le milieu chrétien. Mais dans les années 80, début des années 80, quelqu'un a écrit un livre, 84 raisons pourquoi Jésus revient en 1984. Sérieux? Et il a vendu des millions d'exemplaires et il est devenu millionnaire. Et tu vois, c'était justement absolument incroyable. Bien évidemment, Jésus n'est pas revenu en 84. Donc, en 85, il est sorti un nouveau livre. 86 raisons pourquoi Jésus revient en 1986. Il a vendu un peu moins. Oui, Jésus revient, mes amis, mais tu vois, les gens qui disent, oui, regarde comment le monde devient de pire en pire. Certainement, on est dans la fin des temps. Pensez-vous vraiment que Dieu le Père regarde ce que fait le diable pour décider à quel moment il doit renvoyer Jésus? Pensez-vous vraiment ça? Moi, non. Je dis, je me fiche de ce que fait le diable. Merci que les choses deviennent de plus noires, parce que là, les gens vont voir notre lumière mieux. Je n'ai pas peur de la nuit. Amen. Ok, les amens ne sont pas très... Ça va au fond, là? Vous êtes toujours en vie derrière. Je ne vous entends pas trop bien ici. Et d'ailleurs, vous savez, la salle est trop petite. Ou l'église est trop grande. C'est soit l'un, soit l'autre. Ben, je vais vraiment rajouter mes prières parce que vous êtes juste dans la phase débutoire. Okay? Vous êtes en train de découvrir ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia, c'est excitant. C'est bien, c'est comme le début d'un mariage. Tu vois, il n'y a que la vie à découvrir. Bien avec toutes les charges et tous les problèmes et tout le reste. Mais profitez-en de ce moment. OK? Vous n'y passez qu'une seule fois dans la vie. OK? Vraiment, profitez-en bien, bien, bien. Mais aussi, notez tout ce que vous vivez pendant ces temps-là. OK? Pour apprendre à vos enfants, lorsque c'est à eux, de reprendre la direction de l'Église, ben, pas tout de suite, mais bon, quand le temps arrive, parce que c'est là où nous sommes actuellement. Okay? Mes enfants vont prendre le volant, entre guillemets, le volant de l'Église dans quelques années. Tu vois, on est dans cette transition générationnelle. Et vous y arriviez aussi un jour. Pas tout de suite, mais un jour. Okay? Donc, notez bien ce que Dieu fait. Ça serait important, comme les enfants d'Israël, quand ils ont traversé le Jourdain, et Dieu leur dit, voilà que chaque tribu pose une pierre dans le Jourdain, pour que dans les générations futures, quand vos enfants voient ce pilier de roche, ils demandent, mais ça représente quoi? Et là, on évoque l'histoire du traversé du Jourdain. C'est important. OK. Donc, chaque promesse que Dieu a évoqué sur ta vie a toute la même puissance que les paroles qui ont créé les univers et le monde. Parce que Dieu n'a pas deuxième classe. Il n'a pas une classe pour certaines élites. Voilà, pour tel et tel, parce que quand même, il fait un peu partie de la classe des élites. Il voyage en première classe dans la grâce de Dieu. Donc, on va lui donner une promesse qui est vraiment sûre. Mais bon, pour tous les autres qui sont en deuxième classe, tu vois, ben, on verra. On verra si on reste fidèle à la parole. Non, mes amis. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle. Point. Amen. Il tient ses engagements. Il tient sa promesse. Nous, c'est ça le problème. Et la raison pour laquelle on a du mal à vraiment, vraiment construire sur la fidélité de Dieu, c'est parce que pour vous et pour moi, la fidélité est un choix. Pour Dieu, c'est sa nature. Il est fidèle. Vous et moi, nous décidons de marcher dans la fidélité. C'est différent. Dieu, quand le soleil se lève, Dieu ne dort pas. Mais bon, imaginons un instant, il dort. Quand il se réveille, lui, il n'a aucune décision. Il n'est pas là en train de dire, mais aujourd'hui, serai-je vraiment fidèle? Ça, ce n'est pas notre Dieu. Que tu marches dans la droiture, que tu... Voilà, pas très droit, mais Dieu ne change pas. Il est toujours droit, notre Dieu. Il est toujours fidèle. Il tient toujours sa promesse. Toi et moi, on est différents. Si je donne à Mathieu, je lui dis, demain, écoute, j'ai envie de t'inviter à un bon restaurant, le meilleur restaurant de Montélimar. Je ne connais pas, mais bon, bref, certainement, il y en a. Je t'invite et je passe chez toi à midi pile pour te récupérer. Puis je t'amène au resto. Midi moins 10, il est prêt, il attend. Midi arrive, Robert n'est pas là. Il n'appelle pas, il laisse me joindre par téléphone, je ne réponds pas. Midi 15, Robert n'est pas là. Midi 30, Robert toujours pas encore là. Midi 45, alors là, franchement, Mathieu est en train de se demander, mais ce gars du Nord, c'est que tous les Parisiens sont, mais je pense que Robert était un petit peu différent. Bon, bref, j'avais tort. Et puis finalement, j'appelle à midi 45 pour expliquer que j'avais cassé mon téléphone. Parce que quand je l'ai amené dans le jacuzzi de Patrick et je ne pouvais pas appeler, Patrick n'était pas à la maison, patati patata, et puis voilà, désolé. Et maintenant, le planning de ma journée est trop, trop chargé, donc, mais on va le faire demain, mardi, midi, pile, je serai là pour te récupérer. Même scénario. Il n'est pas tout à fait prêt à midi moins 10, mais quand même à midi, il attend quand même à ce que j'arrive devant la maison, mais je ne suis pas encore là. Midi 15, non. Midi 30, non. Midi 45, non. Là, j'appelle à midi 45. Désolé, mais vraiment, ça ne m'arrive jamais comme ça, deux fois de suite, mais la voiture, j'ai une panne de voiture, j'ai le temps de trouver un taxi, et puis ceci, cela, etc. Et là, mais désolé, mais sûr et certain, demain, à midi, je viens te chercher. Combien vous pensez qu'il sera en train de m'attendre à midi le lendemain? C'est incroyable. Deux erreurs. Et déjà, la confiance n'est plus comme avant. Fidélité. Je dis à ma femme, quand je le vois le matin, « Chérie, je t'aime. Ah, t'es vraiment la meilleure femme au monde. »« Ah, merci, mon amour. » OK, toutes les heures pendant la journée, je l'appelle pour lui dire à quel point elle est merveilleuse, elle est belle et elle est intelligente, etc., etc. Et chaque fois, oh, merci mon amour. Et puis juste avant de se coucher, je me fâche. Je dis, mais ah, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Qu'est-ce qu'elle fait avec les 100 je t'aime que je lui ai donné dans la journée? Partie en fumée. Vous voyez à quel point pour vous et pour moi, la fidélité est quelque chose d'extrême fragilité. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, Dieu, il veut nous apprendre la fidélité. Parce que la fidélité ne fait pas partie de notre nature. C'est ça le truc. Vous imaginez, le mariage, il n'y a aucune alliance, et j'aimerais vous encourager. J'ai rencontré l'écrivain de ce livre, Créer une alliance ou bâtir une alliance, je le connais un petit peu, le gars. Excellent livre. Mais vous vous rendez compte, le taux de divorce en France, c'est un mariage sur deux. Est-ce que vous pensez que lorsque un jeune homme tombe amoureux d'une jeune femme et puis il décide de faire un mariage, que ce soit civil et ou religieuse ou non, mais ils décident de vivre ensemble et ils décident de se marier. Il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage. Parce qu'ils ont peur de ne pas tenir l'engagement. Ceux qui décident de tenir un engagement, la moitié vont échouer en France. C'est grave. C'est vraiment grave. Et il n'y a aucun, il n'y a pas un seul, il n'y a pas une seule fille vêtue en blanc qui marche dans le couloir vers l'hôtel devant, qui est en train de se dire, est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne suis pas très sûr. J'ai fait peut-être une grosse bêtise là. Ben, chacun a vraiment cet espoir que ça va marcher. En pleine connaissance qu'un sur deux ne marche pas. C'est incroyable. Et c'est 2 sur 3 à Paris, divorce. Et ça, c'est l'engagement humain le plus sérieux qui existe. C'est pour ça que faire une église n'est pas évident. Parce que l'église est fondée, que vous l'aimez ou pas, sur un engagement. Il y a un engagement envers Dieu, mais aussi envers vos frères et sœurs. C'est pas juste un grand, c'est pas juste un grand cafétéria où on vient de manger à notre satisfaction, et le jour où la nourriture n'est plus aussi bonne, ben on va chercher ailleurs. Ça, c'est pas une église, c'est un rassemblement. Amen. Et je connais à peine les responsables de cette église, mais ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est que Dieu ne cherche pas juste un groupe de gens qui se rassemblent le dimanche matin. Il cherche vraiment un peuple qui est prêt à devenir une communauté qui aura un impact non seulement dans la vie de Montélimar, mais dans toute la région. C'est ça ce que je ressens ici. Qui va repousser les puissances démoniaques qui dominent la région en tant que principauté et qui établissent vraiment un lieu où le royaume de Dieu se manifeste. Je crois que c'est ça vraiment le rêve dans le cœur de Dieu. Amen. Mais mes amis, Dieu, tôt ou tard, il va venir à la porte de votre cœur en demandant un engagement. Et c'est là où votre fidélité, alléluia, sera mise à l'épreuve. Tout le monde dit « Amen » ou « Oulala ». Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous serez toujours mis à l'épreuve dans 2 domaines de votre vie, toujours. Et si c'est déjà le jour où tu donnes ton cœur à Jésus, bienvenue, bienvenue à la formation du Saint-Esprit. Vous n'avez pas demandé, ça vient avec. Amen. Toi, tu as accepté Jésus-Christ pour que, je ne sais pas quoi, il te fasse du bien, il te guérisse, il te donne une belle vie, il te donne la promesse d'une vie éternelle, quelle que soit la raison. La grande majorité de gens qui viennent à Jésus viennent pour des raisons égocentriques. Amen. J'ai accepté Jésus, pas pour vous, mais pour moi. OK? Mais quand on accepte Jésus, il y a tout un package qui vient avec. Alléluia. 2 domaines, vous serez toujours mis à l'épreuve. Tôt ou tard, vous passerez par l'épreuve. Numéro 1, au niveau de votre foi. Est-ce que vous croyez vraiment ce que Dieu vous a dit? Et la foi est absolument obligatoire pour avoir de l'influence dans le ciel. Dieu cherche la foi. Il répond à la foi. Il ne répond pas aux besoins. Si Dieu répondait aux besoins, mes amis, il n'y aurait plus de malades dans les hôpitaux. Parce qu'il y a plus de gens qui prient dans les hôpitaux que dans les églises. Qui sont en train de négocier avec Dieu. Si Dieu, tu m'aides, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les hôpitaux sont remplis de gens qui prient. Mais Dieu ne les guérit pas. Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à la foi. Il cherche la foi, notre Dieu. C'est pour cela que ta foi sera toujours mise à l'épreuve. Le deuxième domaine où vous serez toujours mis à l'épreuve, c'est au niveau de votre caractère. Pourquoi? Parce que c'est par le caractère qu'on a de l'influence dans le monde. Les gens du monde, ils se fichent si on croit en Dieu. Ils veulent savoir si on a un bon mariage qui tient la route. si nos enfants sont pas juste sages et bien élevés, mais si nos enfants sont vraiment bien autonomes. Amen. Si nous sommes honnêtes, si on est fiable, n'est-ce pas? Si ce qu'on vit correspond à ce qu'on prêche. Ça, c'est le caractère, mes amis. Amen. Pauvres les églises qui vivent une manifestation extraordinaire de la gloire de Dieu à l'intérieur des quatre murs. Mais pendant toute la semaine, on ne voit aucun chrétien dans la ville parce qu'on passe incognito. Tu vois, ça c'est pas le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la raison pour laquelle toujours et d'une manière systématique dans ta vie spirituelle, ta foi sera mise à l'épreuve. Oh, je sais, on ne se réveille jamais le matin en disant « Oh Seigneur, que ma foi soit mise à l'épreuve aujourd'hui. » Vous savez que le mot grec traduit la foi et le mot pistis. Pistis. Le mot traduit fidèle et le mot pistos. Juste une petite lettre qui les distingue. Pistis, pistos. Et ils ont exactement la même racine. C'est-à-dire que tu ne peux pas être fidèle sans avoir la foi et tu ne peux pas avoir la foi sans être fidèle. Les deux marchent ensemble. Hallelujah. Mais du moment où Dieu te donne une promesse, au moment où la promesse est accomplie dans ta vie, c'est ça qu'on appelle la vallée du délai. La vallée du délai. Et c'est, bon, autrement, je crois que c'est David dans les psaumes qui dit, il appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. C'est là où beaucoup de chrétiens meurent, hélas. C'est là où ils abandonnent le destin que Dieu a fixé dans le ciel pour eux. C'est là où il y a beaucoup de chrétiens qui baissent les bras, qui disent « Ah, ça ne vaut plus la peine de persévérer. On va faire quelque chose un petit peu plus facile. » Et je ne sais pas si c'était juste l'éducation que j'ai eue en tant qu'enfant, mais je n'ai jamais voulu faire des choses qui étaient faciles. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé à Paris. J'étais prêt d'aller n'importe où. Mais il m'a envoyé à Paris. C'est dans la vallée du délai, mes amis, qu'on découvre vraiment quelle est la foi et quel est vraiment le caractère. Imagine juste un instant que quelqu'un entre par la porte derrière avec une grave, grave maladie. Et on l'amène sur le devant et devant vous tous, je commence à crier « Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es guéri aujourd'hui. » Et puis tout d'un coup, paf, la puissance de Dieu tombe sur lui. Wouh, guéri, commence à courir partout. Et j'annonce « Voilà, je reviens dimanche prochain et on va prier pour tous les malades. » Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens viendront? Ah ben oui. Mais du moment où j'ai déclaré la guérison, et le moment où la guérison s'est accomplie, c'était quand même une délai, mais délai très bref. On aime les délais brefs. Amen. Mais imagine que je dis exactement la même chose, mais il n'y a aucune manifestation. Et j'annonce, voilà, dimanche prochain, emmenez les malades, on va prier pour tout le monde. Même vous, en bonne santé, vous ne viendrez pas. Pourquoi? Parce que pour vous et pour moi, on n'aime pas la vallée du délai. Il y a quelque chose pour nous qui déteste la vallée du délai. Imagine notre Sauveur qui annonce à ceux qui le suivent, « Ne vous inquiétez pas les gars, je vous aime et je vous donne cette promesse. » Aussi vrai que je suis vivant maintenant, après ma mort, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi là où je suis pour l'éternité. Wouh! Et les gars étaient vraiment excités. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et nous voilà 2000 ans plus tard. Et on annonce toujours Jésus va revenir. Ça, c'est une vallée du délai. Et on n'est pas fait pour. On est fait pour la vallée micro-ondes. Tu as à peine quelques secondes, mais même les quelques secondes, ça passe trop lentement. Plus vite, micro-ondes, plus vite! N'est-ce pas? On n'aime pas la vallée du délai. N'est-ce pas? Mais la vallée du délai fait partie du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, un, il est fidèle. Si on n'apprend jamais la fidélité, il y a un élément de Dieu, on ne comprendrait jamais. Et on ne le connaîtrait pas. Et deux, Dieu, il a besoin de développer notre caractère pour que nous ayons aussi de l'influence dans le monde. Pour qu'on soit un peuple fiable. Amen. Et le monde a besoin de voir un peuple fidèle. Ils ne vont jamais croire à un Dieu fidèle si le peuple n'est pas fidèle. Ce que vous voyez, vous êtes l'évangile lu par les non-chrétiens. Vous aimez, moi et ma femme, on est arrivés en France en 1988. Oui, c'était avant la... Beaucoup d'entre vous est né. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi proche de la cimetière que ça. Mais quoique ça va venir, je suis plus proche maintenant du cimetière que je suis de... Bon bref, passons. On est arrivé en 88, 4 ans plus tard, Dieu nous a donné une magnifique fille et on était juste trop contents. Et 2 ans plus tard, on attendait notre deuxième. Et Catherine, la grossesse s'est passée super bien, merveilleusement bien. Et on attendait avec grande hâte l'arrivée de notre deuxième fille. Donc, quand elle est arrivée, on était dans une clinique privée dans la région parisienne, nord-ouest de Paris. Et... je n'oublierai jamais le jour où je tenais Rihanna dans mes bras. Et puis on avait amené, c'était au bon vieux temps, des postes cassettes, tu vois. Et on avait amené ça pour avoir de la musique louange. Parce qu'on voulait que les premiers sons qu'entendait Rihanna dans le monde étaient la louange de Dieu. Et ce n'est pas étonnant qu'elle est devenue louangeur par la suite. Et je tenais Rihanna dans mes bras et j'entends la voix de Dieu qui me dit, cet enfant apportera le message de guérison à beaucoup de peuples. Ah, j'ai trouvé ça vraiment mignon comme parole. Je dis, merci Seigneur, c'est vraiment chouette. Oui, alléluia. Je vais noter ça dans son carnet. Petite parole de Dieu. Ce qu'on ignorait à cette époque, c'est que Rihanna est née avec un aorte bouché. L'aorte, c'est la veine principale qui amène du sang du cœur dans tout le reste du corps. Et c'était bouché. On ne savait pas. Quand vous êtes né, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui existent autour du cœur pour aider un petit peu à démarrer le système. Et normalement, la grosse majorité de ces vaisseaux disparaissent à peu près une semaine après la naissance. Et c'est l'aorte qui prend la totalité du travail. Donc ça se montrait pas. Les médecins ne l'ont pas vu. 5 jours plus tard, on voit qu'il y a quand même un changement. Elle devient tout pâle et elle ne mangeait plus. Et on a compris que notre enfant était vraiment malade. Ce qu'on ignorait, c'est qu'on était en train d'entrer dans la vallée du délai. Et je me souviens, c'était un samedi soir, je me préparais pour le lendemain, le prêcher à l'église. Et on n'a pas dormi, on a chanté, il y a un chant en anglais, « You are the God who heals me ». Et on chantait ça toute la nuit, en boucle, on le chantait. Mais son état au matin était encore pire. Donc je dis à Catherine, je dis « Chérie, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on amène Rihanna à l'hôpital ou est-ce qu'on va à l'église ?» L'église était dans une direction, l'hôpital dans une autre. Et on a prié, on a réfléchi, on a parlé un petit peu et puis après on a décidé d'aller à l'église. Alors on comprend, je ne dis pas qu'il faut faire comme nous. Ok, attention. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. Je raconte simplement notre témoignage. On s'est dit, écoute, on prêche un message de guérison. Soit Dieu est notre guérisseur, il ne l'est pas. Et on va honorer notre Dieu, on va y aller. S'il n'y a pas de changement, après le culte, on ira à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre les médecins. Okay? Mais on voulait vraiment honorer notre Dieu et le mettre en premier. C'est Dieu notre sauveur, ce n'est pas le médecin. Wow, merci Mathieu, j'attendais un petit amen quand même. Donc, on va à l'église. Et là, j'ai des idées, j'allais prêcher sur la guérison divine. Ah bah oui, bien sûr. On touche à ma famille, alors là, je vais voler du diable. Et là, j'ai prêché. Ah non, j'ai oublié un truc. Pendant la louange, et là, c'était super important. Pendant la louange, j'ai commencé juste à crier à voix. J'entends la voix de Dieu qui me dit, je guérirai ta fille. Comme ça, pouf, pendant le temps de louange. Alors là, j'ai commencé à sauter, crier toute ma voix, « Dieu, tu guéris ma fille, tu guéris ma fille, tu guéris ma fille !» On ignorait toujours ce qu'elle avait. On n'avait aucune idée que c'était un problème cardiaque. Donc pendant que j'étais là en train de prêcher, hallelujah, donc quelques membres de l'église un petit peu plus âgés que nous les fous, ont contacté leur médecin, le pédiatre, et puis en décrivant les symptômes, le médecin a dit, bah, tu amènes cet enfant tout de suite à l'hôpital. Ce qu'on ignorait aussi à l'époque, c'est que l'hôpital Robert Debray, merci, qui était à 10 minutes de l'église. Donc, on aurait fini à cet hôpital si on avait choisi d'aller à l'hôpital près de la maison, en tout cas. Catherine part avec quelques membres de l'église pour aller à l'hôpital. Et chose que j'ignorais, Catherine arrive à l'hôpital, passe dans le rayon de la section cardiaque, cardiologie, service cardiologie, pour faire des tests, etc. À un moment donné, Catherine regarde et l'enfant ne respire plus. Elle meurt dans les bras de Catherine. Et là, elle crie à voix haute, mon enfant ne respire plus. Et juste à ce moment-là, un médecin qui est dans le couloir, il n'y avait aucun personnel dans la salle. Et un médecin traversait le couloir, il entend Catherine crier, mon enfant ne respire plus. Le médecin vient en courant, il ramasse l'enfant, il arrache l'enfant des bras de Catherine, et sans dire un mot, il commence à courir vers la salle de réanimation. Et c'est un énorme hôpital. Catherine suit en courant, mais quand il passe par les portes, il disparaît. Entre-temps, moi, je suis en train de prier pour tous les malades dans l'église. Les petits bobos, petites migraines, des petits muscles tordus, les petits maux de dos. Et là, je crie, Alléluia, Dieu, il est mon guérisseur, il est en train de guérir mon enfant. J'ignorais que mon enfant était en train de mourir. La vallée du délai. Après avoir fini de prier pour la dernière personne, il était presque 15 heures, et j'ai demandé, mais ma femme, elle est où? Et quelqu'un dit, bah, je crois qu'elle est partie à l'hôpital avec le bébé. J'ai dit, ok, très bien, certainement c'était juste pour faire un check-up, certainement. L'enfant certainement est guéri. Le temps que je trouve l'hôpital, parce que moi je ne connais pas les hôpitaux, je pars dans le service cardiologie, l'enfant n'est pas là. Et puis je croise une infirmière qui dit, ah, vous êtes le papa de la petite Rihanna? J'ai dit oui. J'ai dit, suivez-moi. J'ai dit, on va où? Suivez-moi, monsieur. J'ai dit, non, mais expliquez-moi, qui est-il? Suivez-moi, monsieur. C'est là où je commence à sentir, il y a peut-être un truc qui cloche. J'arrive dans la salle de réanimation juste au moment où le médecin sort pour nous annoncer les nouvelles qu'après 20 minutes sans oxygène, qu'ils ont réussi à redémarrer le cœur, mais à cause du manque d'oxygène, elle a souffert des dégâts du cerveau irréparables, que le foie ne fonctionnait plus, les reins ne fonctionnaient plus, l'aorte était bouchée à 90%, et le cœur avait plusieurs trous entre les ventricules Et les médecins disent, là, on ne va pas survivre la nuit. Il y a plein de choses qui passent dans la tête quand tu es confronté avec ça. Qu'est-ce que je fais en France? C'était la première pensée qui m'est venue à l'esprit, mais j'ai donné tout pour venir en France. J'ai tout sacrifié pour venir ici. J'ai tout laissé derrière moi, la famille, les amis, un salaire. J'ai tout laissé derrière pour venir ici servir Dieu et amener le salut aux Français. Et là, quel prix à payer? Et au milieu de mes doutes, vous savez, Dieu, il a eu, quelle compassion. Il m'a rappelé la promesse qu'il m'a donnée pendant le temps de louange. Et là, j'ai dit à Catherine, je dis, écoute, on va sortir parce qu'il y avait quelques membres de l'église qui m'ont suivi, et juste pour nous soutenir à l'hôpital. Entre autres, l'homme qui allait devenir par la suite mon adjoint. Il était tout nouveau dans l'église. Ils sont venus, Jean-Pierre, Régine et leur petit garçon de 4 ans. Là, ils restaient dans la salle de réception pour prier et on est sortis. J'ai dit à Catherine, j'ai dit, écoute chérie, on va vraiment faire confiance à Dieu. J'ai raconté ce qui m'est arrivé pendant le temps de louange. Je dis, écoute, Dieu, il est fidèle. On ne sait pas quand il va guérir. Et on ne sait pas comment il va guérir. Il ne m'a pas dit ça. Mais je n'ai aucun doute que Dieu m'a donné une promesse. Il va guérir. Donc, on va synchroniser avec la parole de Dieu. Et quoi qu'il arrive, on ne va pas bouger. Et on va continuer à prêcher la guérison. Et on va continuer à prier pour les malades. Quoi qu'il arrive. C'est le signal de terminer l'histoire. Désolé, je ne peux pas continuer. Donc, il faut m'inviter l'année prochaine pour finir l'histoire. Voilà, la vallée du délai. Merci. Est-ce, je peux finir ou je sais, je vois l'horloge. Désolé, là, j'abuse un peu. Oui, ou dimanche prochain. OK, 5 minutes. Je pense pouvoir terminer. Alors, on a commencé à prier. Alors, moi, je prenais 1 heure. Catherine me suivait d'une heure. On le faisait 1 heure ensemble. Et puis, on faisait 1 heure de pause. On fait ça 24 heures sur 24. Au bout de 3 jours. Et puis, chaque jour, les médecins changeaient leur avis. Oui, bon, elle a survécu. Contraire à ce qu'on pensait. Mais bon, elle sera une légume tout le reste de sa vie. On va dire, oui, on va voir. Et chaque jour, elle allait de mieux en mieux. Et puis un jour, on arrive 4, 5 jours plus tard, elle n'était plus à l'hôpital. Il fallait du temps pour trouver où est-ce qu'ils l'ont mis. Et ils l'ont transférée dans la nuit à Antony, qui était un grand centre cardiologique. Et on a dit, OK, merci. Je me demandais à quel moment ils allaient nous avertir, mais bon, bref. C'était bon signe quand même. Que son état était assez bien stable pour pouvoir faire une intervention chirurgicale pour ouvrir l'aorte. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et gloire à Dieu, c'était une grande réussite. Merci Seigneur. Mais les médecins nous ont dit, par rapport au cerveau, le foie, les reins, on ne peut rien faire. Je dis, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Et ce que je peux vous dire pour vraiment raccourcir l'histoire, en 3 semaines, ma fille était entièrement guérie. Entièrement guérie. Et je devais aller à l'hôpital. Catherine avait pris une chambre privée pour pouvoir allaiter Rihanna. Donc j'étais à la maison avec Rachel, sa sœur. Et donc, je devais aller, je ne me souviens plus, c'était au mois de décembre, et je devais aller chercher Rihanna et Catherine de l'hôpital. Juste avant de quitter l'appartement, mon téléphone sonne. Si vous n'avez pas encore distingué, je suis américain. Et c'était notre compagnie d'assurance. Vous êtes Monsieur Baxter? Oui. Votre fille est née dans tel et tel hôpital? Oui. Elle a eu une intervention chirurgicale dans telle et telle clinique? Oui. Bah, Monsieur Baxter, j'ai le regret de vous informer que votre contrat d'assurance ne couvre pas ces interventions. Je dis, excusez-moi. Oui, et tous les frais sont à votre charge. Je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Alors là, j'ai dit, Seigneur, alors, c'était vraiment une route longue entre les banlieues du Nord et Antony. Et là, je priais en langue, j'ai dit, Seigneur, vraiment, fais en sorte que je suis rendu invisible pour qu'aucun personnel, parce qu'on a pris la connaissance de tout le monde dans l'hôpital. Elle était dans ce clinique pendant, je crois, à peu près 2 semaines et demie, peut-être 3 semaines, quand même, dans une chambre privée, que maintenant, moi, je dois payer de ma poche. Ça va, tout se passe bien à l'entrée de l'hôpital. Je passe dans les couloirs, j'évite les caméras. J'avais l'impression d'être 007 en mission. Je trouve l'étage, je monte par les escaliers et non pas par l'ascenseur. Je prends le couloir qui mène à la chambre et tout est clair jusqu'... Mais juste avant d'arriver à la chambre, je vois un des médecins qui avait suivi Rihanna. C'est une femme. Elle m'a vu. J'ai dit, ah zut, alors elle m'a vu. Elle vient, elle me dit, elle me demande, mais vous êtes le papa de la petite Rihanna? J'ai dit, oui. J'ai dit, je sais qui vous êtes. J'ai dit, zut. Et elle me regarde et elle me dit, je sais pourquoi vous êtes en France. Ah là là, là, vraiment, l'engin commence à tourner dans la tête, je vais finir en prison, Seigneur. Protège ma famille. Et elle me dit, je suis juive. Et je sais pourquoi Dieu vous a envoyé en France. J'ai décidé de vous offrir tous mes services. Et j'ai déjà parlé avec tous les autres médecins et chirurgiens en leur demandant de faire la même chose. Je sais, je dois finir, désolé. L'histoire est vraiment longue, il y a tellement de trucs assez complexes. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Jean-Pierre, l'homme qui est devenu mon adjoint et son garçon de 4 ans. Je parlais avec le garçon 2 décennies plus tard, il me dit, tu sais, pasteur, mon premier souvenir de la vie, c'était d'être à l'hôpital. Et que je prie pour que Dieu ressuscite. Pour que Dieu ressuscite un enfant d'entre les morts. Et ma fille a épousé ce garçon. Et c'est eux qui vont prendre le pastorat dans l'église dans quelques années. Quand ma fille est en parfaite santé aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, je devais retourner à l'hôpital Robert Debré pour faire un contrôle, pour être sûr que l'aorte grandissait à la même vitesse que le cœur. Et on a passé par 5 services différents, mais le dernier, c'était comme une échographie. Je crois, c'est comme ça qu'on appelle, merci. Et il me montrait l'écran, il était vraiment mais étonné, étonné. Et il a dit, bah, tu vois, tout ce que je voyais, c'était une tempête de neige. Franchement, mais lui, il voyait des trucs. Il a dit, mais ça, je ne me reviens pas. Ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai dit, quoi? Et il n'y a aucune cicatrice sur ce cœur. L'aorte, le trou de l'aorte est formé comme un petit peu le symbole de Mercedes. Il y a 3 parties, 3 valves. Donc, quand c'est bouché, ce qui coupe dans la tissu, et tu finis avec 2 valves, mais qui ne se ferment jamais parfaitement. Et il a dit, non seulement il n'y a pas de cicatrice, il y a 3 valves. Et il m'a dit, il n'y a aucune preuve qu'elle a eu un problème cardiaque. Il y a juste le psychiatre sur le dos qui nous rappelle qu'elle a subi une intervention. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, mes amis. Mais juste pour terminer, parce que ça, c'est vraiment le cerise sur le gâteau, ma fille, quand elle est tombée enceinte avec son premier, elle cherchait un gynécologue. Et cherchait, ils habitent pas loin de la ville de Compiègne. Et elle a trouvé un gynécologue, bien réputé, jeune, mais réputé. Et donc, lors de la première visite, il regarde son dossier. Et il dit, mais je connais cette histoire. Parce que tout est noté hein, dans son dossier. Surtout, quelqu'un qui a un problème cardiaque à la naissance, on veut vraiment veiller que l'enfant n'aura pas. Tu vois, son enfant n'aura pas. Donc, il dit, je connais cette histoire. Donc, il a réfléchi un petit peu. Il a dit, oui, j'avais un prof à l'école de médecine qui nous racontait et qui a raconté l'histoire d'un miracle dont il était témoin. Et il nous a dit que la médecine moderne ne peut aller à qu'un certain limite. Et après, il faut se fier à Dieu. Le gynécologue de ma fille, c'est l'étudiant de l'homme que Dieu a utilisé pour guérir ma fille. Dieu, il est bien. Il est bon, amen. Il est fidèle. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Désolé d'avoir pris un peu trop de temps. Est-ce que vous pouvez juste lever les mains? Mes amis, n'ayez jamais peur de la vallée du délai. Amen. La vallée du délai n'est pas ton ennemi. Hallelujah. Si Dieu te met dans la vallée du délai, c'est parce qu'il sait que tu peux aller jusqu'au bout. Hallelujah. Mais tu n'as pas besoin de faire la vallée toute seule. Dieu, il est avec toi. Et Dieu va toujours te donner des hommes et des femmes fidèles qui vont marcher dans la vallée avec toi. Alléluia. Seigneur, je prie pour chacun de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus. Pour ceux et celles qui sont au milieu de l'épreuve, au milieu de la vallée du délai, Seigneur, tu fortifies leur foi au nom de Jésus. Tu leur donnes la patience et la persévérance pour apprendre la fidélité en toutes choses. Alléluia. Seigneur, merci. Pour ceux qui ont vécu la vallée du délai et qui décident, Seigneur, je ne veux jamais revenir sur la vallée. Elle était trop douloureuse. Et tu as fait des vœux pour ne jamais passer par ce chemin encore. Et Seigneur va guérir ton cœur aujourd'hui. Il va guérir ton cœur. Hallelujah. Parce que Dieu, il a toujours un plan pour toi. Donc, il faut pas arrêter le processus de croissance. Dieu veut t'amener à la maturité complète. Hallelujah. Mais tu es encore à une œuvre en progression, en progrès. Donc, au nom de Jésus, Seigneur, tu encourages mes bien-aimés. Hallelujah. Qui ont fait des vœux de ne jamais retourner dans la vallée du délai au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu brises cette malédiction qui est venue à cause de ces paroles de négatives et les paroles de mort. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et même je prie, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui luttent pour obtenir la guérison, pour obtenir le miracle, pour obtenir la manifestation de la promesse donnée. Père, au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2025 soit l'année de la percée. Je le proclame sur cette église, l'année de la percée au nom de Jésus. La percée dans ta vie personnelle, la percée dans ta vie familiale, la percée dans ta vie professionnelle, même la percée dans la vie de l'église au nom de Jésus, le Dieu de la percée. Hallelujah. Et que tout soit fait. Seigneur, je laisse vraiment ta bénédiction sur cette maison. Et je bénis cette maison au nom de Jésus-Christ. Que les fondations soient sûres et inébranlables. Au nom de Jésus, Seigneur. au nom et que chacun de tes plans, chacun de tes rêves, Seigneur, hallelujah, trouve de la terre fertile et que tout soit fait pour la gloire de Jésus. On parlera un jour de ce que Dieu a fait à Montélimar. Un jour, on parlera de ce que Dieu a fait à Montélimar. Faites partie du miracle. Décidez aujourd'hui que tu fais partie du miracle de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.